France Inter.
It's morning edition from NPR News.
MCT's on in the house.
Halim, Radio Rosana Piparis.
Produce gente en la radio.
Son pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Pès.
Nous sortons du studio ce soir pour entrer au Musée de l'Homme. On est heureux de cette respiration. Allez, suivez-nous. Un jour dans le monde ce soir, c'est un jour au Musée de l'Homme, et c'est aussi peut-être un jour dans l'histoire d'un textile, une autre histoire de la mondialisation et de l'appropriation. On va vous raconter tout ça. Nous sommes au Musée de l'Homme, donc dans l'espace d'une exposition sur le wax, et les deux commissaires qui vont nous accompagner au cours de ce voyage sont autour de nous. Il y a Soloba Diakité, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous êtes historienne des arts africains. Il y a Cindy Olohou, bonsoir à vous. Vous êtes responsable des collections du FRAC, le Fonds Régional d'Art Contemporain d'Île-de-France. Soloba Diakité, d'abord, pour les gens qui nous écoutent et qui se disent, le wax, je sais ce que c'est, mais en fait, est-ce que je le sais vraiment? Est-ce qu'on peut décrire, s'il y a d'abord un mot pour décrire, peut-être que c'est la couleur, en fait?
Oui, c'est vrai que quand la première idée que l'on voit, et puis dans notre quotidien, eh ben, c'est un textile très coloré, avec beaucoup de motifs, riche, donc qui interpelle, qui est aussi dynamique, presque cinétique, je dirais.
Ce qu'il faut dire aussi aux auditeurs, c'est que, alors on y viendra d'ailleurs plus longuement, mais le wax est associé évidemment à l'Afrique, c'est sur ce continent-là qu'on en voit le plus, qu'on le voit quasi même exclusivement.
Effectivement, c'est une longue histoire, mais ce textile est venu à incarner une identité africaine, même un panafricanisme. Voilà, ça incarne l'Afrique.
Alors enfin, avant d'en décrire certains, moi je voudrais qu'on parle un petit peu de fabrication, parce que wax, bêtement, ça veut dire cire,
oui.
Parce que la cire est l'élément majeur. Comment ça se fabrique? Ça commence comment, cette histoire-là?
Alors, elle commence en Asie, et particulièrement sur l'île de Java. Sur l'île de Java, on fabrique le batik javanais, dont les motifs sont réalisés avec de la cire. Les Hollandais vont ensuite vouloir mécaniser ce textile qu'ils découvrent au 19e siècle. Et donc, c'est par la suite, effectivement, qu'on va utiliser deux rouleaux symétriques par lesquels vont passer du coton pour justement imiter un textile dont les motifs sont sur les deux faces.
Exactement, recto verso.
Voilà,
et c'est d'ailleurs pour ça.
Ni envers ni endroit, précisément.
Ni envers ni endroit. Je peux toucher ou pas?
Oui, bien sûr.
C'est épais.
C'est épais, c'est aussi souple,
ouais.
Parce que c'est vrai que si on compare à certains textiles traditionnels africains, ils sont plutôt souples et faciles à travailler, à découper certains motifs pour réaliser des vêtements assez élaborés.
Alors là, ce qu'on a autour de nous, Soloba Diakité, c'est une collection magnifique de motifs qui sont tous différents les uns des autres, qui sont incroyablement colorés. Et surtout, ce qui est formidable, c'est qu'ils ont tous un nom. Quand on sort habillé d'une robe ou d'un pantalon ou d'une chemisette en wax, on envoie aussi un message.
Par exemple, là, on présente un motif.
C'est celle-là, donc la main bleue,
avec la main.
La main bleue sur un fond jaune.
Oui, en fait, ce motif, il est aussi nommé « L'union fait la force ». Mais au Bénin et au Togo, il peut être donné dans le cadre d'une dot, pour rappeler à la jeune femme que dans un mariage heureux, il faut aussi avoir des moyens financiers. Cette pendule, alors c'est vrai que
alors ça,
les
c'est
objets
une pendule,
modernes...
La pendule est rouge sur une espèce de trépied, je ne sais pas si on pourrait dire ça comme ça, et sur un fond bleu.
Et vous, pour vous, qu'est-ce que ça vous évoque?
Bah, je sais pas, c'est un petit peu, on dirait un peu la montre molle de Dali, moi, d'ici.
Ah,
mais
on peut penser à cela. Mais c'est intéressant parce que quand ce motif est sorti, on a voulu représenter une pendule, mais on y a vu des ovaires.
Ah mais dingue! Ah,
ouais.
On est très loin de la montre molle de Dali.
Non mais voilà. Mais l'horloge biologique.
Alors maintenant vous me le dites.
L'horloge biologique.
Qu'est-ce que c'est bien, l'horloge
biologique. L'horloge biologique.
Et du coup, si je porte ça, ça veut dire fais-moi un enfant rapidement parce que mon horloge tourne, c'est ça que ça veut dire?
Bah, ça peut vouloir dire ça. Okay. Après, voilà. C'est vrai que ça semble léger comme ça, mais effectivement, on se rapporte à des événements parfois importants.
C'est très, très clair comme message. Mais alors, c'est clair, puis c'est drôle. Il y en a un ici qui s'appelle Marie Capable.
Oui, alors
donc
il est là.
Donc félicitations à madame, c'est ça que ça veut dire?
Il est là, oui. Félicitations à madame, félicitations à monsieur qui arrive à bien s'occuper de sa madame.
Le suivant ici, tu sors, je sors.
Bon, voilà.
Ça veut dire quoi, tu sors, je sors?
Ça veut dire...
Ah, c'est celui-là. Ah, mais c'est génial. Tu sors, je sors, c'est sur un fond rose. Il y a des cages jaunes et des oiseaux qui en sortent. Donc ça veut dire, en gros, si t'es pas fidèle, moi non plus.
Oui, oui. Et puis bon, ça peut vouloir dire aussi un sens positif. Donc il faut qu'on soit soudés. Mais attention, tu me trompes, je te trompe.
Soloba, il y a aussi cette idée dans le wax que c'est une sorte de tissu hybride, en fait.
c'est-à-dire à la fois créé par des Hollandais, mais arrivé en Afrique, ce qui est produit aujourd'hui en Hollande. Il y a aussi des choses qui sont produites évidemment en Afrique.
Exactement,
et portées à 90% par les Africains.
Oui.
Et donc il y a eu ce moment où une partie de l'Afrique s'est dit est-ce que c'est à moi ou est-ce qu'on me l'impose ? Où est-ce qu'on en est de ça ? Où est-ce qu'on en est de cette appropriation ou désappropriation et ce dialogue-là, même peut-être cette controverse-là sur le wax ?
Alors en fait, moi, en mon sens, ça, je pense que cela se pose plus ici, en Europe.
Par la diaspora africaine en Europe, vous voulez dire ? C'est ça que vous voulez dire ?
Je trouve, hein,
okay.
Parce que, en fait, voilà, quand on est, je ne sais pas moi, à Lomé ou à Abidjan, les gens ne se posent pas trop la question. Le wax fait partie du quotidien. Mmh. Je veux dire, il y a toute une économie aussi qui est en place, hein, déjà sur le continent. Et ici, c'est vrai que ça dépend si comment on se positionne vis-à-vis de ce textile. Si c'est on le considère comme un textile africain, eh bien, évidemment, c'est mon identité. Mais si je ne me considère pas comme un textile africain, donc je ne suis pas vraiment concernée par cette question d'appropriation.
Et puis je pense que c'est aussi tout le paradoxe d'un tissu comme le wax, c'est que peut-être qu'on n'a pas besoin de trancher cette question-là, que c'est ce qui fait sa complexité, c'est ce qui fait aussi son succès, c'est sa malléabilité, son évolution, et que certes c'est un tissu qui est né dans un contexte colonial, mais qui au moment des indépendances a permis le développement de toute une économie, des usines dans de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest, dont certaines perdurent encore aujourd'hui, qui a permis à de nombreuses personnes de s'identifier, qui fait partie d'un patrimoine familial et culturel qui se transmet de génération en génération et qui est bien plus complexe que juste une binarité de
D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que l'appellation wax ou no wax, enfin, est-ce qu'on est wax, est-ce qu'on n'est pas wax, ça date pas des indépendances. Moi, je croyais très naïvement que c'est peut-être à ce moment-là que quelque chose avait basculé. Pas du tout, en fait. Ce débat arrive bien après.
Bien après. Bon, c'est vrai qu'au moment des indépendances, moi, il y a une image qui me frappe, c'est celle de Kwame Nkrumah. En 1957, le Ghana prend son indépendance. Et quand il donne son discours, Kwame Nkrumah et donc ses compagnons, ils portent ce qu'on appelle Agbada. Agbada, c'est ses tuniques tissées traditionnellement. Pourtant, le wax existait. Mm-hmm. Hein, mais il décide de porter un textile traditionnel. Évidemment, ensuite, comme le disait Cindy, avec toutes les industries étatiques qui vont se mettre en place pendant les indépendances, bien, le wax va faire partie vraiment du paysage.
Pour aussi rebondir sur ce que dit Soloba, ce qui est aussi intéressant par rapport à cette image de Kwame Nkrumah, c'est que le wax, contrairement au tissu plus traditionnel, ne porte pas forcément d'interdit de lier à une classe sociale ou à qui peut le porter ou pas, n'est pas forcément rattaché à un seul pays, puisque un tissu est généralement rattaché à une culture. Pour les tissus traditionnels, comme le ndop, pardon, est rattaché au Cameroun, à l'ouest du Cameroun plus précisément. Le wax a cette perspective un peu panafricaine qui permet aussi un dialogue et un échange et une sorte de reconnaissance bien au-delà d'un seul pays ou d'une seule région.
Après, ce qui est intéressant, vous l'avez évoqué, après les indépendances notamment, le wax, il est porté par les femmes. Et quand je dis porté, économiquement porté par les femmes, les fameuses Nana Benz, qu'on appelait Nana Benz parce qu'elles pouvaient avoir des Mercedes-Benz, c'est elles qui l'ont apporté. Donc les premières femmes d'affaires, c'est elles, ce sont des femmes.
Alors ce sont des femmes, donc elles commencent dans les années 50, ce sont les premières milliardaires Togo, Lomé, hein, et à partir de là, effectivement, le commerce va, dans toute la sous-région, se faire jusqu'en Afrique centrale.
Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'on peut effectivement avoir une lecture qui est, est-ce qu'il y a appropriation, est-ce qu'il n'y a pas appropriation, puis avoir l'autre lecture qui dit l'empowerment, pour citer un mot qui n'est pas du tout français, mais des femmes particulièrement, passe par le wax.
À Lomé et au Togo, leur influence et leur pouvoir étaient tels qu'elles sponsorisaient des équipes de foot, qu'elles soutenaient des campagnes présidentielles. Enfin, c'était vraiment quelque chose.
Et alors, Cindy Lehoux, vous qui êtes responsable du Fonds Régional d'Art Contemporain, ce qui est intéressant, c'est qu'on est là face à un tissu qui est très populaire, qui est rentré dans les rues, qui porte des noms, qui montre vraiment à quel point on est dans la vie des gens. Et en même temps, c'est aussi une œuvre d'art. Et c'est devenu une œuvre d'art ou depuis le début, en fait, ça a été aussi qualifié comme ça.
Je pense que depuis le début, ça a été un support d'expression. à la fois par les designers, la créativité des motifs et des couleurs, et aussi par l'adoption des personnes, les sens qu'ils y ont mis, les messages que le wax permet de passer. Et donc ça en faisait un outil, un médium absolument parfait pour que les artistes contemporains s'en saisissent aujourd'hui.
Et c'est intéressant que ce soit devenu un outil tout de suite, en fait. Donc c'est cette tradition-là, en fait, qui est, et un médium, comme vous dites, c'est cette tradition-là qui est perdurée aujourd'hui, et y compris par des grands couturiers et par des grands créateurs.
Oui. Et on a en présent quelques designers, d'ailleurs, au foyer. Et c'est assez intéressant comment chaque créateur utilise ce médium à sa manière, à son sens, et y insuffle sa propre démarche artistique. Par exemple, ne serait-ce que pour les designers, on peut présenter Alexis Temomamin, de la marque Dandeman, qui lui ne travaille qu'avec des wax vintage, qui parfois ne sont plus édités. Et donc notamment, on a un costume bleu, rose fuchsia, avec des éléments jaunes, un costume deux pièces d'homme, qui est un wax Velisco qui n'est plus édité depuis plusieurs années, qu'il a récupéré en faisant des brocans, des vides-greniers, en allant dans des fripes, et avec lesquels il fait des costumes en nombre limité et où il a un rapport très familial. Ça lui permet de réactiver les souvenirs de sa mère qui ne portait que des wax.
Est-ce que pour les créateurs, mais pas seulement, en fait, Soloba, vous allez peut-être aussi pouvoir répondre à ça, est-ce que le wax sort de l'Afrique grâce aux créateurs, ou est-ce qu'il y reste et qu'il a du mal à en sortir? Où est-ce qu'on en est là-dessus?
Alors le wax, c'est étendu et touche le monde entier maintenant. Je pense que les créateurs ont joué un rôle important là-dedans, mais aussi la question de la diaspora. Et le fait d'avoir des créateurs issus de la diaspora ou afro-descendants, pour qui finalement le wax est aussi devenu un moyen de valoriser cet héritage culturel, cette parfois multiculturalité, comme le travail de Gombo Wax, qu'on retrouve à la fois au foyer et au Balcon des Sciences, où on a tout un parcours où au Balcon des Sciences, il nous permet de retracer un peu l'histoire du wax, et au foyer, il présente un bombers, donc un modèle de vêtements très moderne, très contemporain, très urbain, qui montre aussi comment le wax est utilisé maintenant par ces nouvelles générations pour aborder des sujets comme l'identité, l'histoire culturelle, l'héritage familial.
Il y a autre chose que je voudrais pour terminer montrer à nos auditeurs, parce qu'on va le décrire un peu plus loin, là, dans la pièce où nous sommes. Il y a des photos d'une collection Dior. Oui. Il y a aussi Anna Wintour, la grande prêtresse de la mode, qui est habillée en wax. Et ça, qu'est-ce que ça dit de ce tissu? Est-ce que ça dit, si j'emporte moi, vous pouvez emporter vous aussi? Est-ce que ça dit, il faut sortir ce tissu de l'Afrique? Qu'est-ce que ça raconte, hein?
En tout cas, quand Anna Wintour a apporté effectivement ce trench, hein, de Burberry, eh bien, quelque part...
C'est Burberry qui l'a dessiné?
C'est Burberry. Ouais. Et elle dit, oui, c'est comme ça que ça a été perçu, hein, dans le milieu de la mode. Vous pouvez le porter. Et donc, ça a donné un peu l'autorisation de ne pas être déguisé quand je porte du wax.
Et en même temps, est-ce qu'il faut regretter ou pas que le wax reste porté très majoritairement par les Africains? On n'en croise jamais, disons les choses clairement, on n'en croise jamais dans les rues, des blanches comme moi par exemple, habillées en wax. Est-ce que ça veut dire qu'il reste une frontière à passer? Ou est-ce qu'on se dit, il faut, non, ne la passons pas cette frontière, parce que c'est un signe identitaire, et laisser les signes identitaires à ceux à qui ils appartiennent?
Bon, c'est vrai que... On va dire, les Européens ne portent pas, tout le monde ne porte pas du wax, mais on le voit à petites touches, et il est dans les intérieurs.
Alors, mais, je voudrais d'ailleurs le décrire, parce qu'il y a évidemment des robes, il y a des costumes pour les hommes, etc., mais il y a de l'ameublement aussi, ce qui est une manière de faire rentrer peut-être le wax dans d'autres univers.
Exactement, dans la décoration. Là, on ne le voit pas, mais il y a, par exemple, une créatrice qui dessine des wax pour en faire des papiers peints. Donc c'est intéressant, c'est que on va avoir du wax, je vais pas en porter forcément, ou je vais avoir un petit nœud, le sac. Alors là, en revanche, qui n'a pas son cabas, son sac, alors, tout le monde.
Je pense aussi qu'il faut aussi un peu apaiser cette question-là. Ce qui est important, à mon avis, c'est que les gens connaissent l'histoire du tissu. Sache que ce n'est
si
pas.
Moi, je m'habille en wax demain et que je vais en Afrique. Est-ce qu'on me dira c'est de l'appropriation parce que ce tissu, c'est notre identité? Ou est-ce qu'on me dira merci parce que ça permet de sortir le wax du continent? Qu'est-ce qu'on me dira? On ne dira rien.
Oui, les gens diront pas rien du tout. Pour le coup, il y a beaucoup de gens qui portent du wax qui soit blanc ou noir et que ce soit en Afrique. Je pense que c'est la différence pour moi se fait plus sur les types de vêtements qu'on va porter. Je m'habille pas comme ma tante qui vit au Togo quand je mets du wax. J'en mets à des occasions bien précises. Il fait pas autant partie de mon quotidien, peut-être qu'il fait partie du sien. On le porte pas avec les mêmes pièces. Je vais plutôt avoir tendance, je raconte un peu ma vie, mais à mettre un bombers et pas à mettre un boubou. Enfin, je pense que le type de vêtement correspond aussi au type de vie qu'on mène. Moi, je vis à Paris, et c'est mon rapport au wax est différent de mes cousines ou cousins qui vivent à Lomé, par exemple.
Et du vôtre aussi, peut-être sur le bain. C'est quoi votre rapport? Ce sera la dernière question. Votre rapport à vous au wax?
Bon, déjà, moi, c'est vrai que quand j'en porte, je choisis des motifs que j'ai vus portés par ma mère ou par ma belle-maman. Donc, c'est plus un lien affectif. Et ensuite, concernant les coupes, moi, c'est à la fois traditionnel et moderne. Je peux porter à la coupe boubou. Moi, ça ne me gêne absolument pas aller travailler en boubou, donner mes cours en boubou. Ça ne me dérange pas. Donc, je pense que c'est très personnel.
Merci beaucoup à toutes les deux, Soloba Diakité et Cindy Elohou, de cette visite, de cette exposition Wax au Musée de l'Homme. Vous avez le temps, vous qui nous écoutez, de venir la voir. C'est passionnant jusqu'au 7 septembre, donc profitez-en. Et puis je voudrais vous rajouter que le catalogue de l'exposition, d'une certaine façon, est un peu particulier. Vous pouvez aller le chercher par une BD qui s'appelle Wax Paradox, signée par Justine Sceau, chez Bayard Graphique, et qui raconte l'histoire du wax, l'histoire d'une famille aussi qui peut-être vous ressemble d'ailleurs. Merci beaucoup à toutes les deux.
Merci.
Merci.
Allez, la suite ce soir, c'est le reportage d'un jour dans le monde. Troisième jour en Bolivie, un an après les incendies. Ce sera avec Nils Sabin pour aller jusqu'à 19h. Christelle Rebière sous les radars, notamment en Micronésie. Le Monde à 18h50, c'est Frédéric Seys sur l'aide au développement qui diminue partout. Et le cinéma en VO, Corinne Pellissier, le film de Jesse Eisenberg. Et à tout de suite, les amis, le tour de la planète continue en passant par New York avec des habitués de la playlist d'Inter, les Fuckers, I Don't Wanna, sur France Inter.
What the thing?
nous revoici en Bolivie dans le reportage d'Un jour dans le monde, troisième et avant-dernier épisode de notre exploration de ce pays, un an après les incendies géants qui ont dévasté une zone grande comme 2,5 fois la Suisse. On vous donne cette comparaison depuis lundi parce qu'elle est parlante. Nous avons évoqué les animaux, la nourriture pour les autochtones et ce soir la santé préoccupe. Une partie du pays et de la population a vécu pendant des semaines, voire des mois, sous une épaisse couche de fumée. Plus de 3 mois après la fin des incendies, l'effet de ces fumées sur la santé est encore visible chez beaucoup de personnes. Et le reste, c'est Nils Sabin qui raconte.
L'année dernière, la petite ville de San Javier et ses habitants dans l'est de la Bolivie ont dû lutter pendant plus de 100 jours contre différents incendies. 100 jours passés aussi à respirer les épaisses fumées de ces feux. Au siège de l'organisation indigène Paiconeca de la ville, Enrique nous raconte qu'il a dû partir temporairement de sa communauté.
Yo tengo mi mujer y mi hijo.
Avec ma femme et mes enfants, nous ne pouvions plus rester là-bas. Les enfants étaient très mal à cause des fumées et le plus grand a même eu des problèmes aux poumons.
Même constat avec Gabriel, dont les enfants ont également souffert de la fumée des feux.
L'école était fermée pendant une semaine, puis les enfants revenaient un jour, puis c'était une nouvelle semaine sans cours. Ils avaient tous les yeux rouges à cause de la fumée, ils ne voyaient plus bien. Et à cela s'ajoutait la toux et l'impression de ne plus pouvoir respirer normalement.
Au plus fort des incendies, les écoles ont été fermées dans un tiers du pays. Même dans des villes comme La Paz, en pleine montagne à des centaines de kilomètres des incendies, les élèves risquaient d'être affectés par les fumées. Les personnes âgées ont également beaucoup souffert lors de cette période. C'est ce dont témoigne Maria, 64 ans, qui habite dans la communauté de Bella Vista, très fortement touchée par les incendies.
Il y avait de la fumée partout. On ne voyait rien. C'était horrible. On suffoquait, même la nuit. Et il y avait cette odeur qui ne partait pas. Moi, la fumée m'a fait vraiment beaucoup de mal. À un moment, j'ai même été hospitalisée. On me donnait de l'oxygène car je n'arrivais plus à respirer.
Dans toute la région de Santa Cruz, et pas seulement les zones directement touchées par les incendies, le sujet de la fumée arrive spontanément dans les discussions car tout le monde en a souffert d'une manière ou d'une autre. À certains endroits, la population a aussi vu ses rivières, ruisseaux et autres sources d'eau contaminées par les cendres. Cela a entraîné des épisodes d'intoxication alimentaire avec diarrhée et vomissements chez de nombreuses personnes. Quant à Marie et son mari, ils ne se sont pas totalement remis des feux.
J'ai encore des problèmes aux yeux. Ils se fatiguent très vite. Donc oui, ma vue n'est plus la même depuis les incendies et c'est pareil pour mon mari. C'est à nous, les plus anciens, que les fumées ont fait le plus de mal. Nous n'avons pas pu nous en remettre.
Pour Christian Ortiz, médecin dans un centre de soins d'un village du nom de Santa Ana de Velasco, la réponse des autorités pendant la crise n'a pas été à la hauteur et encore aujourd'hui, il lui arrive de recevoir des patients qui souffrent des conséquences des incendies.
Il y a 2 semaines, on nous a encore amené un patient qui souffrait des poumons. Et évidemment, c'était parce qu'il avait inhalé trop de fumée pendant la période des feux.
Pour le médecin, la période d'incendie a été particulièrement intense. Il a d'abord dû batailler pour faire fermer les écoles et ainsi protéger les élèves, ce que la mairie ne voulait pas faire dans un premier temps, mais aussi pour obtenir le matériel médical nécessaire pour prendre en charge des personnes affectées par les fumées.
C'était une lutte constante. Je devais insister tous les jours, me plaindre tous les jours. Parce qu'ici, si tu ne te plains pas, tu n'obtiens rien. Mais j'en suis fier, car grâce à ça, j'ai pu faire le nécessaire pour qu'aucun patient ne décède.
Malgré ce succès, le médecin alerte, beaucoup de personnes ne savent pas quel est l'état de leurs poumons et plus généralement leur état de santé, après des semaines, voire des mois à respirer l'épaisse fumée qui reviendra à coup sûr cette année. Il espère donc qu'à l'avenir, les autorités prendront mieux en charge les personnes à risque, par exemple avec des évacuations lorsque la fumée des feux est trop importante.
Nils Sabin pour le reportage, merci beaucoup. Nils, on vous retrouve demain. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Christelle Revient. Et nous sommes d'abord en plein océan Pacifique, Christelle, en Micronésie, sur l'île État de Nauru.
13 000 habitants, 21 km², une île assez plate et menacée par la montée des eaux. 90% de la population va devoir être déplacée au cœur de l'île, vers des terres en altitude, pour l'instant assez peu accueillantes. En fait, l'île contient du phosphate qui a été surexploité. Ses réserves se sont peu à peu taries, mais l'exploitation minière a rendu 80% du territoire inconstructible. Il y a donc de gros gros travaux en perspective estimés à 60 millions de dollars. Alors comment les financer? Eh bien le gouvernement de Nauru a décidé de vendre son passeport, 105 000 dollars. Ce n'est pas inédit, d'autres îles du Pacifique l'ont déjà fait, le Vanuatu, les Samoa ou encore le royaume de Tonga. Mais le système est controversé car certains peuvent utiliser cette nouvelle nationalité pour fuir la justice de leur pays d'origine ou encore pour blanchir de l'argent. Et Nauru d'ailleurs a déjà essayé. Une précédente tentative de vente de passeport avait mal tourné. En 2003, sa citoyenneté avait ainsi été octroyée à des membres d'Al-Qaïda, arrêtés plus tard en Asie. Le gouvernement promet cette fois que le passé des investisseurs sera passé au crible.
You can just sort of explain what happened on the flight, because I know this woman walked out of the bathroom and collapsed next to your seat. How did that then play out?
Well, the staff were there in no time and
Alors cet homme s'appelle Mitchell Ring, il est australien.
Et oui, il partait avec sa compagne Jennifer pour un voyage on ne peut plus romantique à Venise. Un vol Qatar Airways entre Melbourne et Doha dans un premier temps. Mais le couple s'est retrouvé à voyager à côté d'un cadavre. Une femme a succombé à un malaise non loin d'eux, ce qui est déjà assez traumatisant. Le personnel de bord a tenté d'emmener le corps en classe affaires, mais la dame était trop corpulente. Alors ils ont cherché un fauteuil vide en classe économique. Vous pouvez vous déplacer, s'il vous plaît ? Oui. Le passager a dû laisser son fauteuil à la victime, qui s'est donc retrouvée juste à côté de lui, une simple couverture sur son corps, et il restait 4 heures de vol. Il y avait d'autres fauteuils vides, proteste le passager. La compagnie, elle, s'excuse, mais adresse sur toutes ses condoléances à la famille.
Allez, nous sommes au Danemark.
Oui, on les entend, des archéologues ont découvert un site préhistorique dont la structure rappelle le très célèbre Stonehenge en Angleterre. Il s'agit d'un cercle d'un diamètre de 30 mètres composé de 45 pieux en bois placés à environ 2 mètres les uns des autres. Elle a été mise à nu par hasard alors qu'on était en train de construire un lotissement à Ars dans le nord-ouest du pays. D'abord un riche hameau du début de l'âge de bronze, une tombe de notable avec une épée en bronze, puis une nouvelle section de fouilles a permis de découvrir l'entrée de cette structure qui daterait de la fin du néolithique, soit environ 2000 ans avant notre ère. Les archéologues vont essayer de voir si, comme en Angleterre, il existe un cercle plus petit à l'intérieur. Ils espèrent que les fouilles vont permettre d'expliquer les liens qu'entretenait leur région avec d'autres peuples d'Europe.
Allez, merci beaucoup Christelle. Vous revenez demain, vous partez en passant par l'Ouganda avec Geoffrey Oryema, ça date de 90, et ce qui a été remis dans l'oreille de Thomas Langlin, qui réalise cette émission, c'est que vous allez reconnaître cette musique comme un générique, non, Christelle ? Laure Adler ?
Ah bah oui,
Frédéric, vous l'avez ? Le cercle de minuit. C'est beau. Allez, parti. Oryema, sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Le monde à 18h50, c'est Frédéric Seyss.
How dare you?
World's changed.
Fabienne Saintès.
Le 18-20.
Et Frédéric, le gouvernement britannique annonce un budget militaire en forte hausse ces prochaines années. Pour financer cet effort de défense, Londres va tailler dans l'aide publique aux pays en développement. Et cette information a retenu votre attention.
Oui, parce qu'on a beaucoup parlé depuis un mois de Donald Trump qui a gelé l'aide internationale des États-Unis, programme jugé trop coûteux. Conséquence partout dans le monde, des ONG, des associations se demandent si elles vont devoir fermer faute de subventions américaines. Mais en fait, derrière l'arbre Trump se cache la forêt de tous les pays qui agissent de la même manière, certes moins fort, moins vite, moins vulgairement, mais malgré tout, c'est une tendance de fond ces derniers mois. Alors, entrons dans le détail. Les Britanniques vont diviser par presque deux leurs dépenses d'aide publique internationale. En France, coup de rabot de moins 37% cette année. Et puis l'Allemagne, pourtant dirigée jusqu'ici par une coalition centre-gauche, vert et libéraux, taille aussi moins 10% pour le budget de l'aide extérieure. Phénomène extrêmement inquiétant, s'alarmait la Commission européenne il y a quelques semaines, d'autant que l'Europe plus les États-Unis représentent ensemble 80% des dépenses mondiales d'aide au développement.
Et alors comment on explique ce phénomène, Frédéric ?
D'abord, pour faire des économies, l'aide au développement, c'est évidemment la solution de facilité, beaucoup moins risquée politiquement de supprimer des subventions internationales que d'augmenter les impôts. Les gouvernements le savent, personne ne descendra dans la rue, on peut le regretter d'ailleurs, parce qu'une formation agricole ou un atelier sur le droit des femmes en Jordanie ou au Bangladesh sera supprimé faute de crédit. Solution de facilité donc, même si les gains financiers sont en fait assez maigres, l'aide au développement, c'est en moyenne moins de 0,5% des budgets totaux. Ce n'est pas là qu'on va aller trouver un magot inespéré. Deuxième explication, l'urgence de se réarmer. C'est l'argument brandi par les Britanniques. Les pays européens raclent les fonds de tiroir sous pression des États-Unis pour augmenter leurs dépenses militaires. Voilà les vases communicants. Moins d'aide internationale, plus d'armement. On glisse du soft power au hard power, de la volonté d'influence à celle de la puissance.
Et puis, il y a aussi un relan nationaliste, non, derrière ces coupes dans l'aide internationale.
Oui, c'est la mentalité américaine. America first, l'Amérique d'abord, chère au Trumpisme. Les dollars des contribuables américains ne doivent aider personne d'autre que les Américains eux-mêmes. Évidemment, ce refrain a inspiré les mouvements nationalistes partout en Europe. Discours relayé en France par le RN et les proches d'Éric Zemmour. Haro sur l'aide au développement. Sous pression, le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, a même dû concéder ce week-end la création d'une commission pour examiner si ces dépenses sont efficaces, légitimes et surtout pour faire retomber la pression. Partout, donc, l'aide publique au développement est remise en question, parfois jusqu'à engendrer des scènes absurdes. Il y a trois semaines, le chef de la diplomatie britannique se disait totalement opposé à couper l'aide aux pays en développement. Ce serait une énorme erreur stratégique, disait-il. Nous laisserions un vide dont la Chine profiterait. Mais depuis, le ministre des Affaires étrangères britannique a donc perdu les arbitrages politiques au sein de son gouvernement. Comment dit-on avaler une couleuvre en anglais ?
Allez, Frédéric Seyss, merci beaucoup. À demain. Le mercredi, c'est le cinéma en VO. C'est Corinne Pellissier.
Moteur. France Inter.
And the Oscar goes to...
Un jour dans le monde.
Word of warning. This will be a tour about pain.
Our grandmother and Benji were super close.
I mean, she was the coolest.
We're looking back at the horrors of your family history.
Why are you doing this?
Oh man, you used to like
le cinéma en VO nous emmène en Pologne pour un voyage organisé, pas piqué des verres. C'est le nouveau film du comédien et réalisateur américain Jesse Eisenberg, A Real Pain, qui met en scène deux cousins sur les traces de leur grand-mère récemment disparue. Elle avait grandi en Pologne, y envoyée pendant la guerre dans un camp de concentration avant de fuir pour les États-Unis. Le sujet est grave, mais traité ici avec une légèreté et une profondeur qui vous a bouleversé, Corinne.
C'est ce qui fait vraiment la singularité du film. Pendant deux heures, vous avez le cœur gros et en même temps, vous riez beaucoup. Vous vous amusez des blagues, des pitreries de Kieran Culkin, découvert dans la série Succession, super dans le film. Et vous avez envie de le consoler de la disparition de sa grand-mère qui l'affecte bien plus en fait qu'il n'a décidé de le montrer. On est tout le temps sur le fil, la politesse de l'humour pour masquer le désespoir. Et c'est vraiment depuis longtemps l'une des grandes qualités d'écriture de Jesse Eisenberg, aussi bon réalisateur que comédien, qui le prouve dans ce film. C'est son deuxième devant et derrière la caméra. Il y joue le rôle de David, aussi sérieux, stressé et premier degré que son cousin Benji, lui, est cool, drôle et exubérant. Le film repose sur leur duo, deux cousins qui s'adorent mais se sont perdus de vue depuis la disparition de leur grand-mère. Ils vont décider, pour se retrouver, d'entreprendre ensemble un voyage sur ses traces en Pologne pour voir la maison dans laquelle elle a vécu, le camp où elle a été internée, à Majdanek, au sud de Lublin. Un moment dans le film qui est complètement en dehors de la tonalité du récit, beaucoup plus sobre. octobre. On coupe le son, il n'y a plus à l'écran que le visage des comédiens pour illustrer l'horreur de la guerre, des camps. Ça dure environ une minute, mais le résultat est déchirant par ce qu'il raconte et aussi par sa dimension quasi autobiographique. Jesse Eisenberg, pour écrire le film, s'est beaucoup servi de ses souvenirs, de son histoire familiale. C'est en 2008, par exemple, lors d'un voyage à Auschwitz avec sa femme, qu'il a pris la mesure de ses racines. Il en a fait d'abord une pièce de théâtre et puis aujourd'hui, après une demi-douzaine de tentatives de scénario, c'est un film très profond, très drôle et tellement nécessaire à l'heure où l'on commémore les 80 ans de la libération des camps.
Il ne s'agissait pas tant de commémorer l'histoire de l'Holocauste que de parler d'Américains qui essaient à 40 ans de comprendre leur histoire et leur place dans le monde. Lorsque j'ai commencé à écrire sur eux, je voulais vraiment saisir l'étrangeté de la situation. Quand vous allez visiter les camps, il faut prendre un avion, et tant qu'à faire, essayer d'avoir la meilleure place possible. Ensuite, il y a l'hôtel. Vous voulez passer une bonne nuit, bien dormir et prendre un bon petit déjeuner avant d'aller sur place et de vous confronter à l'horreur. Il y a quelque chose d'ironique et d'inconfortable dans la façon dont nous pratiquons ce type de tourisme. Mais je pense malgré tout qu'il est très important d'y aller. Par exemple, au moment où on a tourné le film, une photo a pas mal circulé sur Instagram. Une fille en train de visiter le camp d'Auschwitz qui prenait la pose sur les rails. Les gens l'ont beaucoup critiquée sur Internet, pas moi. Je me dis au contraire, voici une fille que rien a priori ne prédestinait à venir là. On l'aurait bien vu passer plutôt ses vacances dans une ville où on fait la fête, en Floride, à Miami Beach ou ailleurs. Mais pour une raison qu'on ne peut pas expliquer, elle a choisi Auschwitz. N'est-ce pas formidable? Ne devrions-nous pas nous en réjouir et célébrer cette femme?
Allez, ce film est aussi une façon, Corinne, pour lui rendre hommage et rendre hommage aussi à ceux qui entretiennent aujourd'hui la mémoire des déportés.
Ce qu'il dit beaucoup, c'est qu'il voulait éviter la leçon d'histoire, ne pas être trop moralisateur. Chacun doit pouvoir y trouver sa place, à la fois dans ce voyage organisé qui réunit des gens très différents et aussi dans la manière dont on va recevoir le film. Le message, visiblement, passe pas si mal. Il a reçu déjà de nombreux prix au Golden Globe, au BAFTA et concourt à la fin de la semaine pour 2 statuettes aux Oscars. Le meilleur second rôle pour Kieran Culkin et le scénario pour Jesse Eisenberg, dont les talents d'écriture sont multiples pour le théâtre, pour le cinéma. Il contribue aussi régulièrement dans les colonnes du New Yorker et a oublié en prime d'être arrogant.
En écrivant, j'ai pensé à toutes ces personnes en Pologne qui entretiennent la mémoire de ma famille, juste parce qu'elles ont du cœur. J'ai grandi sans jamais entendre parler de ce pays. Ma famille ne parlait jamais de la Pologne. En grandissant, j'ai découvert que nous avons vécu là-bas, en fait, bien plus longtemps qu'en Amérique. Mais personne n'a voulu le raconter à cause de la guerre. Personne à la maison ne parle de l'histoire de la Pologne. Personne n'affiche de drapeau polonais. Mon père ne commande jamais de plats typiques, de pierogi au restaurant. Alors, vous savez, on s'est toujours considéré comme des gens très américains. D'ailleurs, bien sûr que nous sommes américains. C'est ça l'Amérique. C'est un creuset de culture. Mais en réalité, il s'en est fallu de peu pour que nous soyons aujourd'hui des citoyens polonais. Les personnes qui travaillent au camp de Majdanek ne sont pas juives. Ce sont des gens de mon âge, de jeunes universitaires bien souvent très brillants qui auraient pu faire ce qu'ils voulaient de leur vie. Et pour une raison qui m'échappe, ils ont choisi de travailler dans un camp de concentration, de conduire leur voiture tous les matins jusqu'à un camp de concentration, d'aller déjeuner tous les jours juste à côté d'un camp de concentration. Lorsque j'ai écrit le scénario, j'ai ressenti une telle gratitude envers ces personnes. En ce qui me concerne, j'estime que plus nous nous coupons de notre histoire, moins notre vie n'a de sens.
Allez, ça s'appelle The Real Pain, signé Jesse Eisenberg au cinéma ce mercredi. Merci Corinne. À demain d'ailleurs, puisque vous êtes partie pour, vous partez pour les Oscars, vous serez à Hollywood, on sera ravis de vous parler.